Bonjour Frédéric Lefebvre.
Bonjour.
Le sommet du G7 va s'ouvrir aujourd'hui au Québec. Jamais un sommet du G7 ne se sera présenté sous d'aussi mauvais auspices. Donald Trump va arriver en terrain hostile, à tel point d'ailleurs que il semblerait qu'il ait envisagé de ne pas s'y rendre pendant un instant. Selon vous, ce sommet va-t-il marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et ses alliés historiques? Je rappelle que vous connaissez bien les États-Unis puisque vous étiez député des Français de l'étranger, et les États-Unis étaient dans votre circonscription, et que vous y travaillez régulièrement, puisque vous avez un cabinet d'avocats là-bas.
Mais moi, je l'espère que ça va ouvrir une nouvelle ère. Quand Donald Trump a été élu, j'ai émis le souhait que ce soit le signal pour que l'Europe lâche enfin la main du grand allié américain, son protecteur, et sorte de cette abstinence stratégique mondiale dans laquelle elle s'est enfermée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que, paradoxalement, ça peut être une grande chance pour l'Europe. Je pense que le fait que Emmanuel Macron ait su trouver les mots avec notamment Justin Trudeau, qui est un de nos alliés en Amérique du Nord, avec lequel on a beaucoup progressé. Vous savez que l'accord CETA, que certains remettent en cause, que je défends entre le Canada et l'Europe, est d'autant plus important aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'avec cette zone Amérique du Nord, on est en train, au moment même où le président Trump déstructure notre relation économique, on est en train de solidifier notre relation économique avec le Canada, qui par ailleurs est un pays avec lequel nous avons une langue commune, puisque c'est un vrai pays bilingue. Donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui une chance. Mais
il ne faut pas s'inquiéter, il faut y voir une opportunité.
J'y vois une opportunité, je vais même plus loin. J'invite le président de la République, Emmanuel Macron, à prendre une initiative et à créer au niveau européen un G3 ou un G4, suivant qu'on y mette le Royaume-Uni, qui regroupe du coup les pays européens du G7, la France, l'Allemagne, l'Italie, et qui se réunissent au moins deux fois par an pour définir la position de l'Europe en matière de stratégie mondiale et la position de l'Europe à l'intérieur du G7. Je crois qu'il est temps d'avoir une vraie politique à la fois diplomatique et de défense européenne. Regardez, on est au cœur d'une double rupture. Aujourd'hui, à la fois l'OTAN, qui est censé défendre la démocratie, finalement, dans le monde entier, avec aujourd'hui la rupture à la fois de l'occidentalité et en même temps la rupture de l'Alliance Atlantique, puisque quand vous avez le principal pilier, les deux principaux piliers de l'OTAN, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Turquie, qui est censée notamment être notre allié pour nous protéger sur la façade sud, qui est aux mains d'un dictateur et qui conduit une politique qui est complètement contraire aux intérêts européens, et qu'on a les États-Unis qui décident de déclarer, alors que nous sommes leurs alliés, et au nom de la défense américaine et des intérêts militaires américains, une guerre commerciale. Je pense que c'est le moment de se poser la question de l'OTAN et de la manière dont on doit se protéger dans l'avenir.
Pour la petite histoire, ce qu'a fait Emmanuel Macron, cette diplomatie que certains ont appelée la diplomatie des bisous, la diplomatie des tapes dans le dos, est-ce que c'était une erreur au fond? Est-ce que Donald Trump s'est un peu joué d'Emmanuel Macron en simulant ce côté « nous sommes les meilleurs amis du monde » ?
Non, je ne le crois pas. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs renverser les choses. Est-ce que c'est pas Emmanuel Macron qui s'est joué de Donald Trump? Vous savez, la bromance, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire cette amitié entre frères, ben finalement, vous avez adoré la bromance entre Macron et Trump, et vous allez aimer la bromance, puisqu'on va le dire à la québécoise.
Oui, le mot fait florès en ce moment.
Entre Macron et Trudeau.
Oui,
mais... C'est finalement très classique. Et je pense que Emmanuel Macron a compris avant beaucoup d'autres. Parce que c'est pas anecdotique. Trudeau et Macron sont les deux chefs d'État dans le monde entier qui ont toujours bien traité Donald Trump.
Oui.
Trudeau a été le premier à le féliciter quand il a été élu. Pourtant, Justin Trudeau n'est absolument pas aligné sur les positions idéologiques de Donald Trump. Et Emmanuel Macron, vous vous souvenez, l'avait reçu une fois élu pour le 14
très chaleureusement,
juillet,
oui.
Très chaleureusement.
Mmh.
Donc, je crois au contraire que c'est une chance. Ça veut dire que c'est les deux chefs d'État avec lesquels il s'entend qui aujourd'hui lui disent « attention ». Mais il faut comprendre que Trump a toujours la même stratégie. Les gens ont l'air surpris. D'abord, America first, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire.
C'est un, l'Amérique d'abord.
Et moi, je le qualifie d'ailleurs comme de paléo-conservateur. On est en fait, on parle beaucoup des néo-conservateurs. Il est un homme qui défend une forme d'isolationnisme, une forme de protectionnisme. Et il intervient comme un chef d'entreprise. Il considère qu'il a un enjeu. Quand il a un enjeu, il met sur la table des positions parfois un peu ultra, avec l'objectif simplement que rentre une négo et d'obtenir quelque chose. Là, sur la question des négociations commerciales, regardez, il a déjà obtenu avec la Chine que la Chine dise non, ne nous mettez pas de droits de douane et nous, on va ouvrir beaucoup plus sur les importations américaines. Il veut obtenir de l'Europe, parce qu'il se trouve que la balance commerciale est déficitaire, il veut obtenir
de l'Europe. Avec l'Allemagne en particulier, en fait.
Et avec l'Allemagne en particulier, donc il veut obtenir des efforts. C'est une stratégie qui est la même que celle, vous rappeliez à l'instant, Kim Jong-un, c'est la même chose. Il a à un moment expliqué qu'il allait le détruire, pour finalement se retrouver autour de la table des discussions. Et on peut se moquer de Trump. En tout cas, c'est par certains côtés efficaces. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer les acteurs, notamment sur le plan diplomatique, stratégique mondial. Et je pense que, du coup, l'Europe doit s'organiser plus que jamais et remettre en cause les vieux schémas qui ont finalement entretenu notre faiblesse.
Sur la guerre commerciale, l'Europe a les moyens et envisage a déjà annoncé une liste de produits qui seront taxés, mesures de rétorsion. Il y aura, je crois, notamment le bourbon, les oranges. Enfin bon, bref, ça c'est facile en quelque sorte. Mais en ce qui concerne l'extraterritorialité du droit américain qui permet aux États-Unis de poursuivre n'importe quelle entreprise qui, par exemple, continuerait à travailler en Iran après la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que là, sur ce dossier-là, l'Europe a les moyens de s'opposer à ces sanctions ?
Mais évidemment, moi j'invite l'Europe à adopter la même stratégie. Et l'Europe doit être une grande puissance mondiale, ce qu'elle, pour l'instant, elle n'a jamais osé faire, privilégiant la réussite économique en étant discrète. Elle n'a pas voulu se mêler des grands problèmes du monde. Il est temps qu'elle le fasse. Et sur l'extraterritorialité, là, on rentre dans au plan judiciaire. Ouais. Mais l'Europe peut faire la même chose. Regardez, par exemple, les accords de Paris. Il y a eu la signature par les États-Unis qui est remise en cause aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche l'Europe de considérer que toute grande entreprise du monde entier, notamment les entreprises américaines, qui ne respecteraient pas un certain nombre de critères sur le plan environnemental pourraient être sanctionnés avec des amendes forfaitaires qu'on pourrait définir à des montants très élevés. Et l'Europe adopterait exactement la même stratégie. On doit être dans le rapport de force avec un président comme Trump. Et c'est, je crois, ce que tout le monde doit comprendre. Et compte tenu des déclarations que j'ai vues depuis hier de Trudeau et de Macron, j'ai l'impression qu'ils l'ont compris.
Selon vous, Donald Trump est-il l'homme des lobbies ? Le lobby des armes, on en parle beaucoup, le lobby du pétrole dans sa décision sur l'accord de Paris, le lobby pro-israélien et évangélique sur sa décision sur le nucléaire iranien.
Alors d'abord, il est d'abord le président de son lobby électoral, comme d'ailleurs tous les présidents américains sont enfermés dans la logique de leur propre lobby électoraux. Et quand il dit « America first », quand il dit ensuite qu'il appliquera strictement tout ce qu'il a dit pendant sa campagne, ben finalement, il est en train de dérouler de manière quasi mécanique ce qu'il avait dit auparavant. Donc là encore, il n'y a pas de surprise. Le poids des lobbies aux États-Unis est extrêmement puissant. Il l'a toujours été avec tous les présidents. On sait les lobbies avec lesquels le président Trump a noué alliance pour être élu. Et donc évidemment, il déroule son programme.
Merci Frédéric Lefebvre. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chaos, histoire secrète de la guerre des droites. Mais il n'est pas question que de la guerre des droites, il est question des États-Unis aussi. Vous évoquez Donald Trump.
Je parle de Trump, de Trudeau, de Macron.
Aux éditions Michel Lafon. Merci, bonne journée.